Directement sur la radio insolite, toujours à Barcelone et toujours avec des gens bien qui font des choses extraordinaires. Imaginez un festival de théâtre français à Barcelone, 9e édition. Je suis avec Mathilde, l'une des fondatrices. Bonjour Mathilde.
Bonjour Alain. Alors je rectifie, c'est vraiment festival de théâtre en français, parce qu'il n'y a pas que des Français, hein, il y a des auteurs d'autres pays francophones.
Qui c'est qui a eu l'idée de lancer un festival comme ça?
C'est François et moi en 2000. En 2015 exactement, on est venu à Barcelone. François a des origines catalanes. Et je lui ai dit, écoute, à l'époque, on faisait de la production et de la diffusion. Je lui ai dit, écoute, s'il y a quelque chose à faire ici, moi, ça m'appelle. Et si on achetait un lieu? Au départ, c'était comme ça. Et il m'a dit, bah, on va se calmer un petit peu. Et on a réfléchi, on est reparti en voiture, on a pris l'autoroute. Et en fait, l'idée du festival est née en 2015 exactement. Sur l'autoroute entre Barcelone et Paris. Et on s'est dit, pour voir si ce n'est pas un caprice, un coup de folie, on a pris des billets pour 2-3 mois après, pour revenir à Barcelone et commencer à rencontrer des acteurs de la culture ici, hein, des metteurs en scène, des directeurs de théâtre, des directrices, tout ça. Et non, ce n'était pas un coup de folie, c'était vraiment une idée qui a vraiment germé en 2015 et qui a pris 2 ans. La première édition a eu lieu en 2017.
Ça existait déjà, des festivals de théâtre en langue française dans des pays étrangers?
Alors, des festivals en langue française dans des pays étrangers, oui. Après, des festivals surtout de diffusion. Tu vois, là, on est vraiment sur un festival où on cherche des jeunes compagnies à mettre en valeur, des écritures contemporaines. On cumule un peu toutes les difficultés, mais en même temps, c'est ce qui nous passionne. Tu vois, c'est là où on peut être utile pour que des textes passent la frontière avec des thématiques qui initient des discussions, des échanges. C'est le point de départ, ça a été ça. Et aussi dans la programmation, depuis le début, c'est vraiment un théâtre exigeant de par sa qualité, surtout, et qui puisse convenir à une personne qui soit habituée à aller au théâtre. Donc des gens très avertis, à qui ça puisse plaire, notre programmation. Et aussi à des personnes qui viennent pour la première fois. On a de très belles histoires de personnes qui sont venues pour la première fois au théâtre dans le cadre du festival.
Ça a été tout de suite quand même une réaction positive de toutes les structures, que ce soit l'Institut français, le Consul général, les ministères?
Alors, côté français, bon, il y a beaucoup de propositions, hein, au niveau des instituts, donc on nous a quelque part demandé de faire nos preuves. Par contre, du côté local, c'est-à-dire les théâtres ici, les directeurs, les metteurs en scène, ils étaient hyper intéressés par notre proposition parce qu'ils nous parlaient tout le temps de Coltès, Coltès par-ci, Coltès par-là, et on leur a dit que Coltès effectivement avait révolutionné l'écriture de la langue au théâtre, hein, mais que depuis il y a eu beaucoup 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 d'autrices et d'auteurs à découvrir. Voilà.
Comment vous faites pour choisir les spectacles depuis 9 ans?
Nous, alors moi j'ai été comédienne pendant longtemps, donc j'ai déjà un tissu relationnel au sein de beaucoup de compagnies qui existent. Et puis après on a fait de la production et de la diffusion pendant une douzaine d'années. On est allé en tant que professionnel, donc présenter soit nos productions, soit diffuser d'autres œuvres, d'autres compagnies au Festival d'Avignon. Donc voilà, entre Paris et Avignon, on a quand même beaucoup, beaucoup un réseau qui s'est forgé. Et soit on découvre des spectacles à Avignon ou à Paris, soit on est au courant en amont de ce que préparent les compagnies. Par exemple, la pièce La Clairière de Stéphane Jauberti qui a fait l'inauguration, l'ouverture cette année, on a été au courant 1 an et demi avant, parce qu'on connaît le travail de Jérôme. Il nous a dit, voilà, j'ai ça en préparation, et c'est comme ça qu'on a pu mettre en place une résidence pour finaliser la création, et qu'on savait que de toutes les manières, ce serait eux qui feraient l'ouverture de l'édition 2026.
Donc ça veut dire que vous travaillez avec 2 ans d'avance à peu près?
Alors, on aimerait travailler. Il y a deux vitesses, c'est une très bonne question. Il y a vraiment deux vitesses, c'est-à-dire il y a des choses, voilà, dont on a vent, on sait que ça va se créer, donc on essaye de prévoir. Et il y a aussi, par exemple, là, aujourd'hui, on a présenté le journal de Maya. Eux ont une tournée qui se prépare pour l'année prochaine, et nous, on les a invités cette année. Donc, il y a vraiment deux vitesses. C'est comme ça que ça se passe. On aimerait pouvoir prévoir plus en amont d'un côté, et en même temps, il y a un équilibre pour la spontanéité qui se fait de manière assez naturelle. Mais on n'a pas assez de visibilité sur nos financements pour pouvoir prévoir trop longtemps à l'avance.
Est-ce que tous les spectacles qui sont présentés depuis le début, vous les avez tous vus avant ?
Oui, c'est important. Oui, j'ai pas... Bien sûr, oui, oui. Sauf les créations, évidemment, qu'on avait vu une lecture, on avait vu des séances de travail. Mais oui, oui, on voit les pièces avant.
La question est un peu basique, peut-être un peu simple, mais quel intérêt pour une compagnie de venir ici, à Barcelone ?
C'est de décaler les choses. C'est-à-dire de présenter son travail déjà à l'international. Il y a un autre point de vue tout de suite. Quoi qu'on pense, même si on est francophone, le fait de vivre à l'étranger décale un peu le point de vue. On s'arrange toujours, comme je disais tout à l'heure, pour amener des thématiques qui peuvent ouvrir à la discussion. C'est pour ça qu'on fait toujours des bords-plateaux en fin de représentation. Et pour les compagnies, c'est aussi l'occasion de découvrir une ville magnifique, une autre culture. Comme tu le sais, on surtitre les pièces, que ce soit en catalan ou en castillan. Par exemple, à l'Institut français, on a été les premiers à le faire. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui le font. Eulalia, avec qui on travaille, est une professionnelle vraiment merveilleuse et qui surtitre, qui répète avec les compagnies. Soit elle voit les spectacles en vidéo, soit elle assiste à une répétition pour bien caler, que ce soit vraiment à la seconde près où l'acteur prononce la parole. Poum, elle lance le texte. Donc voilà, l'intérêt pour les compagnies, c'est de décaler, de recevoir des points de vue un peu différents.
Alors, tu as dit castillan, catalan. Moi, je répondrais, on est quand même en Espagne. Où est passé l'espagnol ?
Quand je dis castillan, c'est de l'espagnol, hein, tout simplement. C'est un jeu de langage.
D'accord, ok. Déjà 10 ans l'année prochaine. Oula, attention, c'est le gros gâteau d'anniversaire qui arrive.
Oui, alors tu sais, tous les ans, on se dit, est-ce qu'on pourra remonter la même chose ? C'est toujours un jeu d'équilibre, que ce soit financier, que ce soit organisationnel. Ça paraît gros de l'extérieur, mais c'est une petite équipe. Hein. Nous, on a beaucoup, beaucoup donné de notre temps. Ce n'est pas le festival qui nous fait vivre, donc c'est toujours en équilibre. Et ouais, c'est un beau parcours. Moi, personnellement, j'ai cofondé le festival en 2017 avec François. Et cette année, je lui passe l'entièreté de la direction parce que je développe une activité qui m'est propre et qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je pense que le bébé est assez grand pour vivre avec une équipe qui bouge. Donc, je lâche la co-direction cette année.
Il faut savoir que François aussi, lui aussi, a une activité à côté.
Oui, oui, c'est ça, il a une activité, mais voilà, il tient à garder le festival et à le diriger, il le fait très très bien, ça a beaucoup de sens pour lui. Moi, j'arrive plus à cumuler tout, et si je veux rester à peu près saine d'esprit, il faut que je choisisse.
Il faut que je le dise maintenant, on est en plein soleil, il fait chaud, il fait bon, alors que dans le pays d'à côté, ils n'ont pas les mêmes conditions. Vous êtes basé à 70 km de Paris, mais alors vous êtes maintenant ici à Barcelone, vous êtes à 70 km de Paris, ou vous allez vivre où ?
Où on a besoin de nous, où on a des rendez-vous, où ça a du sens d'être ici. C'est pas vraiment la météo qui nous a guidés. Tu sais, il y a des fois, il y a des personnes qui me disent, quand je leur dis que je suis à Barcelone, ils me disent bonnes vacances. J'y mets des... Moi, ça fait un mois et demi que j'ai pas vu la mer. Elle est à un quart d'heure, mais on n'a pas le temps. C'est un peu, c'est notre rythme de vie qui est plus orienté vers les rencontres et le travail.
C'est vrai qu'il y a une sacrée douceur de vivre ici.
Oui. Ça, c'est, on peut pas le contredire. Mais de temps en temps, il pleut beaucoup. De temps en temps, il fait froid. Mais les équipes sont très heureuses de se balader. Là, aujourd'hui, il y a une équipe qui a joué ce matin, qui est partie découvrir la ville. C'est un beau cadeau.
Les petites fourmis dans l'équipe. Il y a Aïna, il y a Léa, il y en a pas mal d'autres.
Alors, Aïna est une comédienne qui est catalane et qu'on a rencontrée à Paris, parce qu'elle, elle fait la même chose que nous, en fait. Elle est entre la Catalogne et la région parisienne. Et elle s'est prise d'amour et d'amitié pour cet événement. Elle a monté en grade, comme on peut dire. Et elle a d'abord collaboré à beaucoup de traductions, puis elle a collaboré avec l'équipe de direction. Et là, maintenant, elle prend de plus en plus d'initiatives et merveilleusement bien.
C'est vrai que sans eux, le festival ne fonctionnerait pas de la même manière.
Ben, ce serait impossible, hein, quand tu vois tous les aspects logistiques pour prévoir les arrivées à l'aéroport, à la gare, en camion, transporter les décors, ça représente énormément. Les spectateurs qui... Tu vois, il y a une réflexion. On a fait de la pédagogie, par exemple, pendant le Covid. Normalement, cette année, ça aurait dû être la 10e édition. On a juste reporté une édition en 2022. En fait, on a fait l'édition 2021 et la crise Covid a eu lieu après. Et il y a des personnes qui nous disent, oui, mais ça joue en Espagne, regarde, il y a tel humoriste qui vient et tout. Et donc, on a fait de la pédagogie en leur expliquant tout ce que une pièce de théâtre qu'ils avaient l'impression de... Voilà, ils payent leur billet et puis ils viennent voir une pièce. Puis après, ils passent à autre chose. Ils disent, tu sais, ça représente des voyages, ça représente des équipes qui mangent, qui dorment. C'est pas un seul en scène avec une petite valise. Il y a des décors, c'est beaucoup plus important. Et donc, le risque financier est à chaque fois plus important qu'un seul en scène. Mais on était très heureux de voir que des seuls en scène aient pu jouer pendant le Covid. Mais ça nous a permis d'expliquer un peu ce qui se passait dehors, en dehors de la scène.
Ton rêve?
Mon rêve, c'est que le festival continue à grandir. Pas forcément de manière énorme, mais continue à vivre avec l'identité, l'ADN qu'il a. On a une fidélité. Des personnes, quelquefois, disent « Oh, moi, généralement, je prends deux, trois pièces. De toute façon, je ne sais pas ce que je viens voir, mais je sais que ça va être bien. » Parce qu'ils découvrent. Voilà. Donc ça, c'est le plus beau des cadeaux, le plus beau des compliments. Mon rêve, c'est que le festival continue à s'épanouir et que moi, je développe mon activité. Voilà. Je tourne une autre page professionnelle. Même si je suis jamais très loin. Tu vois, cette année, j'ai passé la direction, mais je suis là tous les jours quand même.
Merci à toi.
Merci Alain.